Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce premier webinaire de l'année 2026 organisé par l'association Numérique Numérique les top acteurs du numérique français. Et le premier webinaire porte sur un sujet d'actualité, la souveraineté numérique. Alors, il y a eu beaucoup de débats qui ont été donnés dans les médias à propos des décisions qui ont été faites, notamment avec Scaleway récemment pour les des données de santé qui étaient faites par Microsoft jusqu'alors et qui à terme vont être pour Scaleway. La souveraineté numérique, c'est quelque chose de stratégique, puisque c'est notre assurance vie. On voit l'importance des GAFAM et des BAT. Donc on est un peu coincé entre le marteau et l'enclume. D'un côté, les États-Unis, de l'autre, la Chine. Mais est-ce qu'il n'y a pas un modèle français, un modèle européen à trouver qui soit résilient et qui nous permette d'avoir une croissance saine sur le long terme et de ne pas être dépendant, parce que si un nom de domaine est débranché, si on a Apple qui verrouille certains accès, etc., qu'est-ce qu'on fait? Quel est le plan de repli pour à la fois le citoyen, notre défense, dans toutes ces dimensions? Donc être souverain, c'est être maître de son destin. Donc pour cette table ronde, on va commencer. Donc, normalement, c'est Geneviève Boucher, futurologue, qui l'anime. Si la connexion est opérante, mais juste avant de la lancer et de présenter les interviewés, les personnes du panel qui vont s'exprimer sur ce sujet. Un petit mot sur Numérique. Donc Numérique, première édition en 2024. On prépare la deuxième édition en 2026 avec le passage à l'échelle. Ce qui nous intéresse, c'est trois choses. Un, une plus grande inclusion des femmes dans le numérique français, sans quota, mais plus grande inclusion quand même. Deuxième point, l'inclusion des numériciens des territoires, pas simplement Île-de-France, mais en province et à l'étranger, parce qu'il y a des initiatives partout. Et justement, pour peser sur la scène internationale, il faut avoir des forces et une diaspora française très forte partout. Et enfin, troisième composante essentielle, c'est la souveraineté sur l'ensemble de la chaîne, logiciel, système d'exploitation, données, intelligence artificielle, avoir des solutions françaises, voire européennes, et qui permettent de satisfaire nos usages, aussi bien dans le travail que dans la vie personnelle. Voilà. Alors, est-ce que c'est bon avec Geneviève? Alors oui, ce que j'ai pas dit, c'est que vous pouvez candidater si vous considérez que vous êtes
Alors,
un top acteur sur le site numériquissimo.fr et vous pouvez aussi candidater si vous avez dans votre réseau des Yann LeCun encore sur Numériquissimo. Bah, ils peuvent remplir leur fiche. Il suffit ensuite d'avoir une demande du jury pour ensuite faire partie de l'aventure avec actuellement plus de 180 numériquissimiens, mais on va passer le cap des 200 sous peu. Voilà, alors Geneviève, as-tu une bonne liaison Internet?
Alors, est-ce que vous m'entendez?
Très bien.
Ah,
C'est bon.
ça y est. Bon,
Alors,
je vais être sur mon téléphone.
Luc Noaman et Alain, et ensuite enchaîner sur les questions. Bon webinaire.
Alors, eh ben bonjour, bonjour à tous. Désolée pour ce contretemps technologique, mais bon, c'est classique. Alors, on a aujourd'hui un sujet qui nous concerne tous. Quand je dis tous, c'est tous les citoyens. Et on a rassemblé pour en parler trois personnalités qui sont pas forcément celles que vous entendez le plus, mais qui, je vous le garantis, ne sont pas du tout des imposteurs sur le sujet. Alors, il y a Luc Breton, Noam Cherkaoui et Alain Garnier. Pour gagner du temps, je vais proposer à ce qu'ils se décrivent eux-mêmes très rapidement, parce qu'après on pourra rentrer dans le vif du sujet, compte tenu du fait que c'est un sujet très vaste. J'ai prévu de poser trois questions précises à nos trois panélistes, Et on pourra, à l'issue de ce premier webinaire, voir si on fait d'autres webinaires, parce que le sujet est immense, en étant plus spécialisé sur certaines des questions qui sont liées à la souveraineté numérique. Alors, Luc, est-ce que tu acceptes de te présenter rapidement?
Volontiers, bonjour à toutes et à tous. J'ai pour ma part passé toute ma carrière dans la tech. J'ai notamment été longtemps dans les télécoms et ensuite dans le software as a service. J'étais patron de l'innovation du produit et service du groupe Orange pendant près de 7 ans worldwide. Donc j'ai beaucoup voyagé, j'ai vu l'innovation sur les différents continents et en particulier l'Asie et l'Amérique qui sont au cœur des débats aujourd'hui, mais aussi l'Europe et je sais les forces de notre continent. J'y suis très attaché par ses valeurs. Je suis aujourd'hui, depuis 7 ans, patron de NextGen, qui est une société qui fait elle-même partie d'un groupe dont je suis co-actionnaire, qui est un groupe qui développe du software as a service. Et je suis partie prenante très opérationnelle de la filière qui s'appelle Logiciels et Solutions numériques de confiance, qui est structurée au sein du Conseil national de l'industrie et qui pèse lourd dans la création d'emplois et d'activités aujourd'hui et encore plus dans le futur, d'où mon intérêt à être avec vous aujourd'hui.
Alors, je vais prendre la suite de présentation à l'écran, hein, en attendant le retour de Geneviève, qui vient de se déconnecter. Donc, Alain Garnier, moi, je suis le dirigeant cofondateur de Jamspot, une solution numérique de confiance, justement, dans les solutions dites Digital Workplace. En fait, c'est comment est-ce qu'on travaille mieux au quotidien aujourd'hui, solution alternative aux GAFAM. Donc, ça, c'est pour la partie d'entreprise que je dirige, mais en tant que grand témoin par rapport à cette question de souveraineté numérique. Donc, moi, je suis au conseil d'administration, effectivement, du CSF, dont a parlé Luc, sur les solutions numériques de confiance, qui a été créé récemment, qui traite justement de ces questions de souveraineté. Et puis, ça fait maintenant plus de 20 ans que j'essaye d'alerter et de transformer effectivement notre perception sur cette question de dépendance numérique. Et je pense que ce sera un des enjeux de parler effectivement pas seulement de l'histoire de ces 20 dernières années, mais surtout des 20 prochaines années, comment est-ce qu'on peut changer la donne.
Super, je prends le relais alors. Donc, Noam Cherkaoui, je suis à la fois auteur, éditorialiste, mais aussi directeur général adjoint de BPCE SI, BPCE Solutions Informatiques, qui est la DSI retail du groupe BPCE. Voilà, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le digital, dans la tech. C'est mon métier de tous les jours, j'allais dire, c'est mon gagne-pain, mais aussi une manière aussi d'agir et d'informer, d'échanger avec mes compères, avec la société, sur des sujets qui sont aussi intéressants que la souveraineté numérique. Donc voilà, pas mal d'expérience dans le monde bancaire, Société Générale, Banque Postale et BPCE. Et voilà, je suis là avec vous pour partager des convictions et partager aussi des grandes idées qui émergent autour de la souveraineté numérique, que j'ai réussi, en tout cas, je suis en train de le faire dans un livre qui va sortir fin du mois, qui s'appelle Sous l'emprise du code, ou comment le numérique menace la souveraineté des États. Donc, on aura le temps d'échanger sur le sujet dans les minutes qui suivent.
Eh ben, merci pour ces interventions. Je vais juste, pour les gens qui nous écoutent, redonner deux points clés du vocabulaire. Hein. En français, la souveraineté désigne le fait d'avoir le pouvoir suprême. En France et en Europe, on est en démocratie et donc on a imprimé dans notre imaginaire l'idée que le pouvoir suprême, il est par le peuple et pour le peuple. Donc on est très attaché à cette notion de démocratie puisque pendant des millénaires, on a eu des formes de pouvoir qui étaient beaucoup plus autocratiques. Le numérique, c'est un mot qui a une longue histoire qu'on pourrait raconter, mais on va se dire entre nous, sauf si les panélistes ne sont pas d'accord, hein, que ça désigne tout un ensemble, c'est-à-dire du hardware, du software et de la donnée. Et donc, un fluide à part entière. Alors,
la question que je vous propose de répondre, sur laquelle vous pouvez débattre, hein, actuellement, 95% des agents économiques, alors ce qu'on appelle un agent économique, c'est un consommateur, mais c'est aussi toutes les entreprises, tous ceux qui créent de la valeur et qui la commercialisent. Eh bien, 95% des agents économiques en Europe, et en France en particulier, dépendent directement ou indirectement du Patriot Act, hein, c'est-à-dire d'une loi américaine qui est extraterritoriale et qui fait que les Américains peuvent avoir droit de regard sur nos données et l'usage qu'on en fait. 45% des Français commencent à s'inquiéter de cette intrusion parce qu'ils commencent à comprendre la donnée, c'est un fluide vital pour la vie. Vous ne pouvez pas vivre si vous n'avez pas de données. Hein. Voilà. Et donc, ils commencent donc à dire, mais la situation n'est pas acceptable. Mais ils ont la sensation qu'on ne peut rien faire parce que les géants du numérique nous ont tellement dépassés, etc., qu'on ne peut rien faire. Or, il faut avoir en tête que rien qu'avec l'Europe, les géants du numérique américains génèrent à leur profit un chiffre d'affaires annuel de 260 milliards. Alors, la question qu'il se pose et sur laquelle on pourrait débattre, hein, c'est que est-ce qu'il s'agit d'une menace démocratique, géopolitique, environnementale ou une autre forme de menace complètement, complètement nouvelle. Sachant que pour les géants du numérique, en particulier leur leader intellectuel qui s'appelle Peter Thiel, considère qu'il faut faire disparaître la démocratie parce que ce n'est pas efficace. Il faut donner l'avantage à un consortium d'entreprises qui gère le monde avec rationalité. Voilà. Donc il y a un conflit qui est pour le moment entre les Américains et les Européens de nature démocratique, mais vraisemblablement c'est bien plus large que ça. Donc est-ce que vous voulez prendre position sur quelle est exactement la nature de cette menace ?
Je peux peut-être démarrer en disant que ce que tu viens de décrire, ça s'appelle une guerre économique, ni plus ni moins. Et donc, le numérique, c'est un outil de guerre économique. D'ailleurs, en anglais, le terme « intelligence économique » est un terme utilisé par l'économie, mais à des fins de compétition qui va bien au-delà de l'économique. Et l'économique est... le ministère qui s'appelle aujourd'hui aux États-Unis ministère de la guerre, sont intimes, hein, et partagent, si j'ose dire, les mêmes données. Donc aujourd'hui, la souveraineté numérique, ça ne doit pas être vu comme une frontière, hein, ça doit être perçu comme une liberté, la liberté de choisir, d'être informé. Et il ne s'agit pas, et je pense que personne ici, sauf si je me trompe, a l'illusion qu'on pourrait avoir... 100% des achats numériques en Europe qui soient européens. Ce n'est pas tellement ça le sujet. Ce n'est pas de remplacer un monopole par une autocratie qui ne serait pas très réaliste, impraticable, mais de changer ce que tu as décrit. Aujourd'hui, sur le cloud, on a 3 hyperscalers américains qui contrôlent plus de 70% du marché. Et les fournisseurs européens, la tendance, c'est qu'ils reculent à moins de 15%. Donc la tendance est négatif, ce qui est dingue. Effectivement, la sensibilité des consommateurs accélère, parce qu'aujourd'hui, avec l'IA et les smartphones, tout le monde se rend compte que l'ensemble de nos vies est en train d'être absorbé comme dans le trou noir du numérique, qui est un trou noir aujourd'hui massivement américain, un petit peu chinois, mais pas beaucoup européen. Et donc, il y a une dépendance pour les consommateurs. Et puis, pour les entreprises, c'est une dépendance juridique et contractuelle, avec des clauses qui sont opaques. Comme je le dis vulgairement souvent, hein, les Américains, ils commencent par assécher la mare où les poissons vivent. Et quand tous les poissons sont morts, ils remettent de l'eau, mais il n'y a plus que des poissons américains dedans. Donc, le Cloud Act permet ensuite aux autorités américaines d'accéder à 100% de vos données. C'est pour ça que je parle de guerre. Hein. C'est qu'en fait, ils ont un lock très concret. Ils peuvent arrêter nos cartes bleues, ils peuvent arrêter nos mails, ils peuvent arrêter nos clouds, ils peuvent arrêter notre sécurité. Donc, il y a un grave problème de dépendance. Et puis maintenant, avec les tensions internationales, on s'aperçoit que ce n'est plus une blague. Ça peut vraiment se passer. Et donc, il faut arriver à sortir de ça. Il faut avoir du courage. Et il faut commencer par mettre un pied devant l'autre. Et on part de très, très bas.
Mais on a cette menace financière de 260 milliards par an. Et il faut l'avoir en tête. Est-ce que quelqu'un veut réagir à son tour ?
Moi, j'aurais rebondi sur la nature de la menace et aussi le fait que c'est devenu une polycrise qui, effectivement, s'est étendue. C'est-à-dire que chaque partie de cette dépendance, la dépendance B2C, par exemple, c'est-à-dire que les consommateurs soient dans les mains des Américains, la dépendance géopolitique, c'est-à-dire le fait que, par exemple, les systèmes d'armes et la circulation d'informations au sein de l'OTAN dépendent des États-Unis. On l'a vu, par exemple, avec l'Ukraine, quand ils ont, à un moment donné, ils ont fermé les communications entre les alliés européens, par exemple. Ça a été un moment de sidération de la part de l'Europe. Et en fait, ou par exemple les 260 milliards dont tu parles, qui est plutôt la partie dépenses économiques, c'est que chacun, en fait, dans son silo, n'avait pas forcément vu venir cette dépendance comme étant un problème pour soi. C'était un problème au départ pour les autres. Et en fait, ça est devenu un problème systémique. C'est ça aussi qui est post-Covid et l'accélération avec l'attitude en fait de l'administration américaine de profiter de cette situation de dépendance à tout niveau, d'être en mode nos limites sur toutes les dimensions, nos limites sur l'augmentation des prix, nos limites sur par exemple les sanctions qu'on peut avoir, nos limites sur la question justement des rétorsions, nos limites sur le fait d'empêcher les alliés de travailler ensemble. Ça a créé un effet systémique. Et moi, ce que j'ai vraiment constaté, c'est que là, pour le coup, le sujet est devenu un sujet sérieux pour tous, que ce soit pour les consommateurs, pour les dirigeants d'entreprise. Hein, aujourd'hui, tous les patrons du CAC 40 sont sensibilisés à ça, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans. Les États. On a vu un État français passer de « la souveraineté, ce n'est pas un sujet pour moi » à « je considère que c'est un élément principal » et on a même notre président ou le président allemand qui le répète à longueur de journée et qui mettent en place des actions maintenant de correction de cette dépendance. Donc, on est effectivement… l'impression que ça me donne, moi, c'est comme un malade qui longtemps aurait refusé sa maladie pendant une dizaine d'années. Et qui tout d'un coup, parce que ça devient une polycrise et qu'il a mal partout, là pour le coup, il commence à réagir et il se dit quels sont les remèdes qu'il faut mettre en place, et il est prêt à aller faire des examens, et il est prêt à prendre des médicaments, et il est prêt à arrêter de prendre des substances addictives nocives pour lui. Voilà, on est dans ce moment de curation en fait pour l'Europe vis-à-vis de nos partenaires américains vis-à-vis de ça. C'est vraiment un changement de mental qui vient de s'opérer dans la séquence des 18 derniers mois.
Alors, pour compléter ce que tu dis, tout à fait d'accord, et pour répondre aussi à la question de Geneviève, menace, opportunité, c'était une opportunité, c'est devenu une menace, et ça redevient une opportunité en tout cas. Et la question qui se pose par rapport à ça, c'est est-ce que l'Europe veut son indépendance numérique, oui ou non? Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'elle a les ambitions? La réponse aujourd'hui, clairement, elle est non, parce que impossible de rivaliser avec les Américains avec un budget aussi peu, aussi miséreux, aussi petit. La cause est-elle perdue? La réponse est aussi non, parce qu'il faut garder un certain optimisme dans la réaction par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. On a pris du retard en Europe. On a mis notre indépendance, entre parenthèses, par rapport aux États-Unis et par rapport aussi à la Chine, tout ce qui est infra. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on reparle des vrais sujets? Est-ce qu'on reparle la réindustrialisation de la France? Est-ce qu'aujourd'hui, la France, qui est passée il y a une semaine, sous le taux d'industrialisation de l'Espagne. J'ai rien contre l'Espagne, mais en tout cas, il y a 20 ans, on était largement devant. Là, on vient derrière. On parle microprocesseurs, quantique, ordinateur quantique, intelligence artificielle, cloud. Tout ça fait qu'aujourd'hui, on a pris un prisme atlantiste global encore plus sur la présidence de la Commission européenne, qui est devenu à un moment donné un obstacle, ce prisme-là, parce que on s'est limité les choix. Les dirigeants européens ont inscrit la souveraineté, c'est vrai, à l'ordre du jour, mais ça reste encore au niveau du discours et pas encore au niveau des faits. Il y a pas mal de choses qui arrivent aujourd'hui. Et la critique, elle est partagée hein, au niveau des institutions européennes entre États membres. Ce n'est pas quelque chose qu'on cache aujourd'hui. Trump, arrivant au pouvoir, a mis en exergue cette capacité de faire le switch, comme on dit, off à l'Union européenne. Et cette manque de vision européenne, moi aujourd'hui, on nous a reproché, que ce soit en tant qu'État, mais aussi en tant qu'entreprise et encore pire, en tant qu'individu. La tech aujourd'hui est à peine évoquée dans le grandiloquent indépendance du moment, du discours de l'État, etc. Mais quelque part aujourd'hui, est-ce qu'on se donne les moyens d'ambition, oui ou non? Est-ce qu'on se met cette conscience à l'état de l'action? C'est vrai qu'on a pas mal de textes, on est content d'avoir des textes européens, on est un continent qui régule, mais on régule globalement une matière qu'on n'a pas. C'est ça le problème.
Alors, on va parce que comme on dispose de très peu de temps et qu'il est déjà 25 et qu'à à 13 heures on coupe, on va passer à la question suivante qui est avancée par rapport à tout ce que tu viens de dire. Les GAFAM et l'homologue chinois Batix ont été conçus pendant le XXe siècle, au début de la seconde moitié du XXe siècle. Il se résulte de toute une idéologie qui veut l'imaginaire de devenir le maître du monde, etc., pour ce qui concerne les Américains, donc une pensée messianique et une pensée complètement opposée du côté des Chinois. Les Chinois, ils ne veulent pas devenir les maîtres du monde. Ils s'appellent eux-mêmes l'Empire du Milieu et à ce titre, ils estiment qu'ils peuvent absorber toute l'énergie et la matière dont ils ont besoin pour fonctionner eux-mêmes puisqu'ils sont l'Empire du Milieu. Donc, c'est deux pensées très différentes mais qui amènent à une architecture système qui est totalement centralisatrice. Alors, là, on est entre experts. La question que je vous pose, c'est est-ce que ce système est viable compte tenu du fait que la nature, qui a beaucoup plus d'expérience que nous, hein, ça fait des milliards d'années qu'elle fait fonctionner le système vivant, elle a au contraire éparpillé les données, elle a éparpillé les systèmes de décision parce que la concentration pose énormément de problèmes. Alors, en tant qu'expert, la question que je vous pose, c'est est-ce que les choix technologiques, démocratiques et géopolitiques faits par ces deux géants sont en train d'arriver à leur pic d'efficacité? Ah, plus personne ne veut répondre?
Non, j'attends dans l'ordre.
Non, celui qui a le plus envie de répondre, il répond. Hein. C'est plus simple.
Alors, je vais répondre alors. Donc, globalement, ce qu'on est en train de dire là, c'est que cette concentration, c'est un modèle capitalistique qu'on connaît tous. Hein. Il est arrivé par deux raisons principalement. La première, il faut le dire les choses quand même, c'est quand même grâce à l'État américain et l'État chinois. Je crois que les GAFAM aujourd'hui et les BATX ne sont pas nés de rien. Ils sont nés d'un financement massif, un financement orienté et une volonté de mettre des géants globalement pour dominer le monde, ce qu'a dominé la partie tech. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu, qu'on n'a pas vu, hein, qu'on a constaté, mais on est resté dans une économie de marché un petit peu où chacun peut monter. Aujourd'hui, on ne peut pas créer un géant comme Google du jour au lendemain, vous le savez déjà. Palantir, dont on parle matin, midi et soir, Palantir a été créé grâce à des institutions américaines, grâce à la DRAPA, grâce à la financement de la CIA. J'ai rien contre tout ça, mais c'est un financement public qui a été créé, qui a été mis en place pour financer ces grands mastodontes. Aujourd'hui, on arrive en Europe et on veut concurrencer des mastodontes. Ça fait 20 ans qu'ils sont en train de biberonner avec des financements étatiques. Hein. Aujourd'hui, on est très loin. En Chine, c'est pareil. Ils ont créé des mastodontes et ils sont en train de les réguler. Ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit en États-Unis ou en Chine, c'est que ces mastodontes, parfois, ils sont devenus incontrôlables. On a vu le procès contre Google aux États-Unis il y a quelques temps, hein, en termes de qui n'aboutit à rien. On a vu comment les géants de la tech au niveau chinois, ils sont en train d'être un petit peu mieux régulés parce que tout ça fait que cette création de géants concentre les pouvoirs financiers, le pouvoir technologique et l'effet réseau. Donc, tout ça fait que chaque fois qu'il y a un acteur C2PLA qui se crée, il a un ensemble d'input drivers qui permet de devenir ce qu'il est. Est-ce qu'en Europe, on veut créer des géants? Moi, je ne crois pas que c'est la bonne réponse de créer des géants. Il faut qu'on soit dans un modèle différent, un modèle plutôt décentralisé, où on répartit le pouvoir, on répartit la technologie, on répartit l'investissement pour qu'on puisse avoir plusieurs entités qui collaborent au niveau européen et qui permettent, je ne dirais pas de concurrencer le mastodonte tel qu'il est, mais de concurrencer sur des segments d'activité pour lesquels on considère, nous, Européens, qu'on a le droit et le devoir de devenir indépendants. Bah, c'est comme ça que je vois la chose par rapport à cette réaction que tu nous as proposée, Geneviève.
Luc, tu veux répondre ?
Oui, c'est assez simple, finalement. L'Europe, aujourd'hui, n'oriente pas sa commande publique. Comme tu l'as très bien dit, la commande publique en Chine et aux États-Unis est à l'origine de l'émergence des géants du numérique. Si l'Europe faisait la même chose, et c'est une forme d'ailleurs de protectionnisme pour un État qui se dit ultra-libéral comme les États-Unis, qui ne l'est pas du tout en réalité. Donc tout ça, ce sont des grands mots théoriques. La réalité, c'est que les États qui ont une vision stratégique de cette guerre dans laquelle nous sommes, qui est une guerre économique et bien au-delà, comme je l'ai déjà dit, orientent leur commande publique vers leur champion, futur ou existant. Bon, nous, on n'en a plus depuis plus de 30 ans, on n'a plus classé d'entreprises numériques dans le top 500 des entreprises mondiales en valo ou en chiffre d'affaires. Donc, comme ça, au moins, on est détendu, on ne peut que faire mieux, mais il faut le faire tout de suite. Et si on oriente, comme je l'ai dit tout à l'heure, 100%, c'est une folie, mais moi, j'ai lancé un mouvement modeste hein, qui s'appelle IT50+, pour aller sur le site it50plus.com, qui vise à dire si chaque institution publique en Europe, et pourquoi pas beaucoup de privés qui enclencheraient, on a bien beaucoup de labels bio et autres, sur 50% de la dépense numérique vers des champions ou vers des acteurs français et européens, de facto, by design, hein, en bon anglais, de facto, on créerait plusieurs géants du numérique, pas instantanément, mais ça prendrait quelques années, mais on les créerait très rapidement. Et donc, voilà une chose à faire, et tous ceux qui prétextent les lois du commerce qui seraient violées ou ces choses-là sont des enfants de cœur. Tout le monde s'est affranchi de ces barrières-là lorsque c'était nécessaire, y compris les Japonais, qui, lorsqu'ils ont voulu développer leur filière numérique, sont passés outre les règles du commerce pour privilégier leur champion. Et les Japonais sont des gens très bien élevés. Donc tout le monde, de ce point de vue-là, doit être raisonnable. En Europe, si on oriente 50%, ce n'est pas la mer à boire. On pourrait même faire beaucoup mieux que 50%, mais disons 50% déjà de la commande publique européenne vers des entreprises européennes et que le secteur privé s'engouffre dans cette démarche avec des labels de souveraineté, on change le jeu immédiatement et ça, on peut le décider tout de suite et le faire. Et ce n'est pas parce qu'on voit souveraineté apparaître au fronton de nos ministères qu'on est plus souverain. C'est plutôt l'inverse en général, c'est-à-dire que plus on en parle, moins on en fait. Il faudrait en parler moins et le faire plus.
Je suppose qu'Adam, tu veux réagir
oui.
aussi ?
Oui, j'allais rebondir sur ton point, Geneviève, qui est posé. Je pense que justement, ces deux modèles qui s'opposent sont effectivement notre opportunité, mais aussi ce qui nous empêche de le penser. Je m'explique. Aujourd'hui, ce qui a fait que plusieurs fois on a raté le coche, parce que moi, ça fait un moment que je vois des trains passer, que effectivement les gouvernements ne prennent pas, c'est parce qu'à un moment donné, effectivement, ils ont toujours dans cette idée que si on ne fait pas un champion au niveau mondial tout de suite qui domine tout le monde, alors ça ne sert à rien. C'est-à-dire que l'idée même de ce modèle justement plutôt alternatif tel que tu l'as posé, il est essentiel pour qu'on arrive à progresser. Parce qu'on ne fait pas transformer un enfant, parce qu'aujourd'hui, on est des enfants, quand on regarde la proportion en termes monétaires, par exemple, de notre puissance numérique, directement en quelqu'un qui passe bac plus 5 université en un an. Non, il faut un certain nombre d'années. Et pour ça, il faut, d'un point de vue industriel, c'est faire une filière et c'est faire grandir la filière industrielle. Or, nos politiques ont été tétanisées à chaque fois avec cette idée. Si je ne fais pas le prochain Google l'année prochaine, alors ça ne sert à rien. Donc, effectivement, le premier travail qui a peut-être commencé à être fait, là, c'est que les gens se départissent de cette idée que si je ne fais pas le prochain Google demain, alors ça ne sert à rien. Alors qu'en vrai, comme l'a très très bien dit Noaman tout à l'heure, c'est que non seulement c'est un modèle qui peut-être n'est pas le modèle du futur, et moi ça je crois vraiment qu'on est dans le deuxième ou troisième temps du numérique où justement la diversité va reprendre ses droits, et on voit bien que les monopoles sont attaqués de partout et sont contestés, et d'ailleurs ne produisent plus l'innovation qu'ils nous racontent. Enfin, il suffit de voir Apple par exemple, qui était très innovant quand il était challenger. Maintenant qu'il est devenu un monopole et un dominant, bah, tout le monde se plaint que justement, il ne progresse plus. Voilà. Donc, il y a aussi une limite à ça. Il y a une limite écologique aussi. Quand on voit les milliards qui sont dépensés sur l'IA, sont-ils vraiment utiles aujourd'hui ou sont-ils de la spéculation à long terme? Ça pose vraiment des questions. Donc, ces modèles-là ne sont peut-être pas les modèles de demain. Et en plus, en Europe, on a justement cette diversité intrinsèque. On est 27 ou 30 pays bientôt. Avec une diversité naturelle, linguistique, une diversité intellectuelle, pour penser aussi des nouveaux modèles par rapport à l'IA qui vont être avec de la variété, et non pas des modèles monolithiques. Donc, la culture peut être justement beaucoup plus intéressante. Et c'est ça que, par contre, alors là, pour le coup, je trouve que nos décideurs n'ont pas complètement encore franchi le pas. Moi, très récemment, avec des discussions à très haut niveau, très vite, c'est « oui, d'accord, mais c'est qui le champion ?» C'est qui parmi vous dans la filière qui est le numéro un? Et là, je leur dis, ben, on est déjà numéro un dans notre division française, demain européenne. Et oui, on sera mondial demain, dans 5 ans, dans 10 ans. C'est le temps qu'ont mis les Chinois avec brutalité pour le faire. Donc, si nous, on le fait de manière soft et démocratique, ça mettra plus de temps. Ce n'est pas grave. Mais là, il y a une peur de rater le temps présent. Alors qu'en fait, à force de perdre le temps présent, en fait, on ne construit pas l'avenir. Moi, c'est vraiment ce que je vois. Donc, si j'ai un point clé à retenir, c'est effectivement revenir à la politique des pas progressifs. Une politique industrielle. Je rappelle qu'Airbus, par exemple, ça a été pensé dans les années 70 et ils savaient qu'ils mettraient 15 ans pour commencer à reprendre le terrain. Ils ne se sont pas dit « Ah là là, mon Dieu, 70, l'année prochaine, c'est quand est-ce qu'on vend tous les avions ?» Ben non. Il fallait refaire la filière, reconstruire les choses, mettre beaucoup d'argent public, comme ça a été dit. Voilà. Et c'est ce qu'ils ont fait. Dans les années 70, ils étaient sans doute moins excités qu'aujourd'hui, mais peut-être un peu plus pragmatiques. Alors, je ne suis pas regretteur d'hier du tout. Et je pense qu'aujourd'hui, on attend juste une nouvelle génération de politiques qui pense le temps moyen et le temps long et d'arrêter d'être dans le temps de communication de demain matin. J'ai un problème, je passe à la télé ou dans les réseaux sociaux, je communique et j'ai résolu le problème. Ça, ce n'est pas une vraie politique stratégique. Il faut se remettre sur un temps long. C'est vraiment le point clé.
Ce que je voudrais rajouter, Alain, si tu le permets, c'est que les entrepreneurs ne veulent pas de subventions. Ils ne veulent pas non plus des projets d'État. Là, dernièrement, la DINUM s'est mise en tête de réinventer des solutions pour les collectivités locales, ce qui me paraît totalement daté comme pensée numérique. Il faut faire confiance aux entrepreneurs. Les entrepreneurs français, ils sont excellents. Ils ont besoin juste d'une chose, c'est de carnet de commandes. Le reste, ils s'en occupent, trouver les bonnes solutions, être efficaces économiquement, innover. Il n'y a pas de problème de cerveau et de talent en France et en Europe. Il y a juste un problème d'orienter les commandes. Et puis après, là où je suis un peu en désaccord avec mes deux camarades aujourd'hui, là, c'est sur la taille. Moi, je pense que les champions ne sont pas antinomiques de l'innovation. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui la produisent, mais ils font les rachats, ils participent au financement, et donc ils accélèrent globalement. Donc, le fait qu'on n'en ait pas est de toute façon un handicap. Et pour aller sur la Lune ou pour mettre en orbite des data centers, on ne peut pas le faire lorsqu'on est un nain de jardin. Donc, à un moment donné, il faut une taille, hein, il faut que ça scale, comme on dit. Ouais. Sinon, on ne peut pas lutter à l'échelle planétaire.
Voilà. C'est plus la concentration. Oui, Geneviève. On ne t'entend pas, Geneviève. Bon, en attendant que Geneviève arrive, j'ai vu qu'il y a une question dans le fil d'Hervé. Je vais me permettre d'y répondre le temps que Geneviève revienne. C'est une très bonne question. Moi, je reprends. Gilles Babinet avait dit que globalement, l'Europe a eu 20 ans pour perdre sa souveraineté. Il nous faut encore 20 ans pour la retrouver. 20 ans, ça peut paraître peu, mais c'est aussi beaucoup. 20 ans, c'est pour commencer aujourd'hui. Et moi, la DRAPA à l'européen, DRAPA, pour ceux qui sont connectés, c'est une agence européenne américaine de financement qui s'appelle Defense Advanced Research Project Agency et qui est un modèle de financement des innovations technologiques de rupture dans des domaines considérés comme stratégiques à la fois pour garantir une sécurité militaire américaine et pour s'agir économique. On n'a pas l'équivalent de DRAPA. On a BPI France qui est très bien, il fait un super boulot, non, mais il n'est pas aussi concentré que la DRAPA.
Qui n'est pas bien, qui n'est pas bien. Vous m'entendez là?
Oui, oui.
D'accord, ok. Non, la BPI, ça ne va pas du tout. Hein. La BPI, elle… Non, mais attendez, je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Hein. Elle est fondamentalement conçue pour faire émerger des startups innovantes qui ensuite vont être vendues à vil prix si elles ont réussi et abandonnées à leur triste sort dans les tribunaux de commerce si elles ont échoué. La BPI ne traite pas la traversée de la vallée de la mort. Pour faire une grande entreprise, il y a la phase de lancement et ensuite la phase longue et douloureuse qui s'appelle la vallée de la mort où on perd de l'argent parce que plus tard, on va finir par en gagner. Hein, en ce moment, dans l'IA, les grands de l'IA lèvent des fonds pour traverser la mort. Amazon a pendant 12 ans, été financé pour pouvoir traverser la mort. La BPI refuse catégoriquement de traiter cette question. Nous n'arriverons à rien si nous ne franchissons pas cette étape. Elle est décisive.
Alors, non, bien sûr, Geneviève. C'est juste que la BPI France, je dis, ce n'est pas son rôle aujourd'hui. La DRAPA, c'est son rôle. Et on lui faut une DRAPA européenne. C'est ça ce
voilà,
que je veux vous dire.
Est d'accord,
quelque chose,
on est d'accord.
Voilà, j'arrive à ça.
On est d'accord.
On a une partie. On n'a pas les deux jambes. On a un financement des PME, etc. Mais on n'a pas cette orientation sur les stratégies. Ça commence à venir. C'est un peu long. Attends, et c'est un sujet qui est de modèle aussi. On n'a pas ce modèle-là en Europe.
J'avais choisi de ne pas trop s'éterniser sur comment on en est arrivé là. Les deux thèmes qui font que, pour le moment, nous avons été empêchés de développer notre propre numérique, c'est essentiellement l'accord Bloomberg, qui n'a plus de raison d'être depuis 2007, puisqu'il est lié au plan Marshall. Et nous avons fini de payer le plan Marshall depuis 2007. Cet accord dit que l'Europe, et la France en particulier, s'interdit de développer une industrie du traitement de l'information, sauf pour l'armée, l'éducation et la santé. Et les Américains n'ont pas été loyaux, puisque même pour la santé, ils nous emmerdent.
Oui, oui.
Pour l'armée, ils nous fichent la paix, ce qui fait qu'on a quand même un background qui a pu prospérer et on peut redémarrer. La deuxième raison pour laquelle on est entravé jusqu'à maintenant, c'est l'accès au pétrole. Or, l'accès au pétrole, bon ben, vous en trouvez n'importe quel journal, vous voyez qu'en ce moment, c'est en train d'évoluer grandement. Hein. Donc, aujourd'hui, si je repose le problème comme j'avais un peu prévu de le faire, les obstacles sont en train de disparaître. L'argent nécessaire, il suffit de se dire, l'Europe va récupérer progressivement, peut-être pas 260 milliards par an, mais si elle en récupère déjà 200, c'est déjà très bien. Et une des raisons de la tension qu'il y a avec les Américains qui fait que Gilles Evans vient de nous expliquer que notre démocratie, elle vaut zéro, qu'il faut la foutre en l'air, qui soutient des partis politiques qui ont pour finalité de disloquer notre équilibre démocratique, qui est très fragile, parce que notre démocratie, elle n'est pas à maturité en ce moment, elle est encore en devenir. Eh bien, si nous voulons prendre notre sort en main, entre autres sous l'aspect démocratique, il n'y a plus d'obstacle. C'est nous qui décidons. C'est nous qui faisons l'option qui nous va bien. Alors.
Ah, voilà.
On n'entend plus Geneviève.
Voilà. Au moment où tu allais poser une question après ce recadrage.
Bon, peut-être on prend une question du public.
que je suis revenue.
Ah, voilà. Oui, c'est bon.
Ouais. Voilà, c'est bizarre, je perds le micro de temps en temps. Moi, je pense que ce qui est important, et c'est ce que je voudrais partager avec vous, bien sûr, il faut des milliards pour faire tout ça, mais je crois qu'il faut de l'enthousiasme. Vous avez cité notre succès dans l'aéronautique. Ce qu'il faut savoir, c'est que au lendemain de la dernière guerre mondiale, le général de Gaulle avait demandé à deux équipes disjointes de redresser la France. Il y a eu le Conseil national de la résistance qui s'est occupé du redressement immédiat, remettre l'économie en route. Et puis, il y a eu une autre équipe qui s'est appelée la Nouvelle France, dirigée par Jacques Chaban-Delmas, et qui a fait des perspectives, toutes les perspectives à 30 ans, 60 ans, 90 ans et 120 ans. Dans ces perspectives, il y a eu une ébauche du numérique qui a été retraitée ensuite avec Simon Nora et Alain Minc, mais surtout Simon Nora, c'est surtout Simon. Et on avait pensé notre numérique à 30 ans, 60 ans, 90 ans et 120 ans. On a été entravé pour les raisons que j'ai exposées. Et je pense qu'il faut le percevoir comme une opportunité parce que le numérique que nous ont designé ceux qui nous ont devancés, les Américains et la réplique chinoise, pour moi, ce n'est pas un numérique durable. Sur le plan environnemental et sur le plan démocratique. Donc, est-ce que nous sommes capables de remobiliser notre enthousiasme pour fabriquer un numérique qui soit soutenable sur le plan environnemental et sur le plan démocratique. Vous avez déjà pas mal avancé dans la réponse, hein. Mais je trouve que l'aspect environnemental, vous ne l'avez pas trop traité.
Alors, oui, mais l'environnemental, il y a peut-être les aspects économiques, comme c'est souligné par Luc. Donc, comment concilier la croissance économique, l'autonomie stratégique avec l'environnement et les autres composants.
Mais sur ce point-là, j'aimerais bien réagir parce que justement, l'actualité nous montre que vraiment, il y a des choses qui se passent. Le Health Data Hub, qui avait été, c'est un vrai sujet qui avait été une énorme polémique à partir de 2020, qui était passé sur Microsoft sans appel d'offres, je rappelle, parce qu'il y avait des gens en France, au plus haut niveau de l'État, qui disaient « c'est pas possible ». De faire autrement que de faire appel à Microsoft. En 2026, là, on vient d'avoir justement, et on s'est battu contre ça. Moi, le premier, c'est d'ailleurs pour ça, d'ailleurs, Luc, à l'époque, rappelle-toi, ça avait été justement le début d'une prise de conscience très importante parce que ça touchait les données de santé. 2026, on a deux choses qui se passent. On a nos amis de Scaleway, donc boîte, donc filiale, hein, pour ceux qui ne le savent pas, d'Iliad, donc Free, donc 100% française, boîte européenne, qui a remporté l'appel d'offres pour migrer les données sur le Data Hub. Donc, c'est possible de le faire, point numéro un. Point numéro deux, pour répondre à ton point sur l'environnement, en fait, parce que nous, on est aussi à GenSpot consommateurs des data centers de Scaleway, d'OVH et d'autres. Ils sont les mieux disants en termes de data center.
Absolument.
Et parce que nécessité fait loi, il y a aussi le fait que, et quand on regarde les data centers américains, en fait, si on enlève le fait qu'ils rachètent des crédits carbone en faisant cette logique de swap, en disant qu'ils vont fabriquer de l'énergie propre à côté, etc., c'est une catastrophe parce qu'effectivement, ils sont dans un modèle totalement dispendieux. La réalité, et moi, ça me rappelle un truc que j'ai vécu, qui est les grosses bagnoles américaines, elles ont toutes disparu. Voilà. Le cloud américain aujourd'hui, c'est les grosses bagnoles américaines. On a du fric, on a du pétrole, c'est pas grave, 30 litres au 100, c'est pas grave. Et les Japonais sont arrivés dans les années 80 et ça a été une déflagration. Et aujourd'hui, plus une voiture n'essaie pas d'être sobre avec les limites qu'on va mettre autour de ça. Hein. Bon. Et c'est la même chose pour le cloud aujourd'hui et c'est la même chose pour les infras. Donc oui, Geneviève, moi je pense qu'au contraire, aujourd'hui, le modèle européen frugal, mais frugal aussi par obligation, pas seulement par, justement, pas par idéologie, pas par bonté d'âme, mais par réalité économique, est en train de gagner, tout simplement. Et que demain, le boulot qu'a fait Octave Clabat aussi sur son refroidissement à eau, de manière incroyable sur ses machines, le boulot qu'a fait Scaleway avec ses systèmes adiabatiques, pour parler technique, bah ça, c'est de la grosse tech aussi dont on parle pas assez et qui aujourd'hui va être, à mon avis, les gagnants de demain. Et je me dis, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne finance pas massivement le déploiement et la construction de puces d'IA frugales, par exemple. C'est ça notre sujet aujourd'hui. On sait que les GPU, ça coûte très cher, ça consomme beaucoup. On tuerait dans l'œuf le modèle économique à 600 milliards d'OpenAI si demain on sortait une puce qui avait les mêmes capacités tout en consommant moins. Et là, on a les ingénieurs pour faire ça aujourd'hui. Donc voilà où est-ce qu'il faut la fameuse DARPA dont on parle. Il faut qu'elle se mette ici pour faire une rupture technologique massive, par exemple sur l'IA. Voilà ce qu'on devrait faire. Mais je sens qu'effectivement, ça y est, ça c'est rentré dans la tête des gens. On a une autre voie et on peut réussir.
Mais Alain, tu sais, tout ça, c'est vrai, mais à condition, tu l'as dit, le financement public et la commande publique aussi, hein, parce que c'est de l'investissement. S'il n'y a pas d'investissement pour faire du propre, du vert, ça ne va pas le faire. Il y a un des collègues qui est en train de faire des commentaires sur le chat, il parlait d'une boîte suisse qui est en train de faire quelque chose de pareil. Hein, donc, c'est un hébergeur infomaniaque, je ne sais pas si vous connaissez, qui a lancé Eulia. Qui est une IA gratuite et souveraine qui chauffe les logements. Et c'est de l'énergie propre qui est aussi puissante que l'énergie, classique, sans en gaspiller. Et toute l'énergie de l'IA profite à une seconde fois à une collectivité. Mais ça a permis de faire ça grâce à un financement d'État suisse. Hein. Ça n'a pas été gratuit, ça n'a pas été comme ça, ça n'a pas été fait comme ça d'une manière un peu singulière. Hein.
Alors, la Suisse ne fait pas partie des accords de type Bloomberg dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, oui. elle est un paradis fiscal et donc elle est un tout petit peu mieux équipée pour gérer la vallée de la mort. Nous devons gérer la vallée de la mort parce que vous dites DARPA ci, DARPA là, ok, marché public, ok, mais en tout état de cause, avec ou sans marché public, il faut régler le problème de la vallée de la mort. Si on ne l'a pas réglé, on ne fera rien.
Alors, Geneviève, il y avait Luc qui voulait prendre la parole.
Oui, je voulais rebondir sur…
Juste pour compléter, s'il te plaît, avant ce que disait Alain, c'est que par rapport à ChatGPT, le chinois DeepSeek a trouvé aussi une frugalité pour riposter à l'armada énergétique dépensée par les Américains. Donc, on peut aussi avoir des solutions frugales.
C'est vrai.
Mais les solutions frugales, ce n'est pas simplement les Européens qui peuvent les avoir, c'est également les États-Unis avec d'autres acteurs.
Le marché est ouvert, oui. Oui, on a besoin de challengers.
Alors,
notre vallée de la mort, il faut la régler. Vas-y, Luc.
OK.
Oui, alors justement, Geneviève, je te rejoins pleinement sur ce sujet de la vallée de la mort et je veux répéter une fois de plus ici qu'il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des Américains et des Chinois, mais par exemple, si vous regardez Israël, Taïwan, la Corée du Absolument. Sud, le Canada, Singapour, l'Inde, ce ne sont pas tous des petits pays, mais un certain nombre sont des petits pays, voire des micro-États. Et ils s'en sortent particulièrement bien sur le numérique. Ils gagnent des parts de marché. Donc, tous ceux qui regardent les bras ballants, la situation se dégrader et se disent c'est foutu, sont des idiots. En réalité, on peut vraiment tirer notre épingle du jeu, y compris à l'échelon français, qui plus est à l'échelon européen, qui, je le rappelle, est l'un, sinon le plus grand marché commercial du monde. Et donc, notre sujet, c'est transformer nos pépites en leaders. Ensuite, transformer nos leaders en plateforme mondiale sans sortie prématurée du capital, ni rachat opportuniste que tu mentionnais très justement, Geneviève, par essentiellement les fonds de pension américains. Et donc, les 10 dernières années, on a eu une amélioration en France, en Europe, du financement early stage. Tous les entrepreneurs le savent, qui a été porté par des fonds nationaux en France. Des dispositifs publics qu'on a évoqués, notamment avec des pays. Il y a eu un effet d'entraînement global. Là où le goulot d'étranglement apparaît, hein, si on fait les choses un peu schématiquement, c'est à partir de 100 millions d'euros d'equity, À ce niveau-là, l'Europe, elle est plus là ou minoritairement là. Et la France n'arrive pas à stabiliser les actionnariats, ce qui fait que, par exemple, dans le Quantique, Alice et Bob, quand ils ont levé 100 millions d'euros, eh ben, une part importante du tour venait d'investisseurs non européens. On a aussi le cas avec Mistral. Et donc, c'est vraiment des vulnérabilités stratégiques majeures. On pourrait avoir des fonds souverains européens. Oui, oui. Voilà. Moi, j'observe quand même que la dette française a augmenté de 1100 milliards sur une période extrêmement courte. Quelle est la part de l'investissement numérique stratégique là-dedans, peanuts. Donc, l'argent, il existe, il est disponible, il faut le mobiliser et il faut sensibiliser le fait que vous allez dire que c'est une obsession, mais la guerre du numérique, c'est une guerre totale, économique, culturelle et militaire.
Alors, pour info, quand j'ai créé Dauphine Business Angel, il y a une quinzaine d'années, mon idée, évidemment, c'était de faire émerger des startups dans le numérique européennes, parce que je pensais que si elles n'étaient pas européennes, c'était un handicap. On s'est aperçu à cette occasion que c'est quasiment impossible. Les méandres juridiques pour créer une boîte multination au sein de l'Europe, c'est complètement dissuasif. Donc, on a alerté le ministère des Finances, en l'occurrence, j'en ai discuté avec Bruno Le Maire, qui découvrait le problème et qui, 2 ans après, est revenu me voir en disant « Ah ben, j'avais pas vu le problème, effectivement ». Donc, il y a eu des tentatives qui ont été faites avec le 28e État pour faire en sorte qu'on puisse avoir des financements réellement européens, apurés des méandres juridiques qui font les blocages. Le 28e État est actuellement en déperdition parce qu'il y a des lobbyistes qui ont convaincu des élus européens pour expliquer que les grandes entreprises allaient s'en servir pour faire toutes les conneries possibles et imaginables, puisque le principe du 28e État, c'est de faire un bac à sable dans lequel on s'affranchit d'un certain nombre de règles européennes dans les limites qui sont fixées dès le départ et dans une durée qui est fixée dès le départ. On n'a rien inventé, c'est ce que font les Anglais et les Américains et un peu différemment les Chinois, hein, pour oser tout un ensemble d'initiatives qui, en quelque sorte, sont mises à l'abri des grincheux qui râlent après tout. Voilà. Hein. Eh bien, c'est tout ce contexte politique qu'il faut arriver à lever. Ce que je veux dire, c'est que la souveraineté numérique, je crois qu'on n'a pas trop de mal à faire comprendre, et 45% des Français aujourd'hui commencent à comprendre le problème. C'est quand on rentre dans les détails que ça devient plus compliqué. Vous voyez que ce problème du 28e État, qui est une des solutions, peut-être que d'autres pourraient émerger, mais au moins que le débat soit sur la table. Sinon, on ne peut pas avancer.
Alors, ce que je vous propose pour avancer, parce que l'heure tourne, c'est peut-être, que tu axes une dernière question.
Non.
En dehors des États-Unis et de la Chine, qu'est-ce que la France et l'Europe peuvent faire comme partenariat opportuniste avec d'autres nations, comme ça avait été cité par Luc à l'instant?
Non, je ne viens pas m'entendre plus.
Alors, bien. Elle va revenir. Non.
Voilà, alors, bon, ce que je vous propose, c'est de réfléchir.
Bon, je prends le relais alors, parce qu'il y a les deux, ils sont coupés. Alors, personnellement, je considère qu'on a longtemps considéré, par exemple, le site global comme un simple terrain d'expansion pour les grandes puissances numériques. Ce n'est plus le cas. Tu l'as bien dit tout à l'heure et je t'en remercie. Aujourd'hui, des pays comme l'Inde, le Maroc, le Kenya, le Brésil, l'Indonésie développent leur propre modèle, leur propre infrastructure et surtout leur propre priorité. Pour moi, l'enjeu pour l'Europe, c'est donc ne pas exporter un modèle, mais de construire des alliances de co-développement. Parce que si l'on regarde la souveraineté numérique uniquement à l'échelle européenne, on passe à côté d'un sujet essentiel. C'est que la souveraineté aujourd'hui ne se construit plus seul, elle se construit en réseau. Et c'est ça qui est important à partager entre nous. Parce que l'Europe a une carte unique à jouer, c'est de proposer cette troisième voie, une voie qui combine l'innovation, le respect des droits fondamentaux et la maîtrise des dépendances. Cette troisième voie, à mon avis, n'a pas de sens si elle n'est pas co-construite et non pas exportée comme ont essayé de faire les Américains ou un peu moins les Chinois. Donc ça, c'est une première conviction. Et enfin, il y a un jeu qui est sous-estimé, c'est la légitimité. Une Europe qui parle de souveraineté, mais qui reste dépendante technologiquement, aura du mal à convaincre. En revanche, une Europe qui investit, qui partage, qui construit, cette Europe-là, elle va choisir ses dépendances. Il n'y a pas de logique extravertie, il y a une logique de coopération et que chacun y trouve un intérêt stratégique, à mon avis.
Eh ben, écoute, tu as dit ce que je voulais dire. Hein.
Ah, super, c'est génial.
Luc ou Alain, une dernière réaction ?
La réaction que je ferai, moi je suis complètement d'accord sur ce multilatéralisme, y compris technologique. Effectivement, la souveraineté, ça ne doit pas être centré sur l'Europe. La souveraineté, c'est la souveraineté de tous. Et donc, effectivement, cette logique de non-dépendance mutuelle, et que là, à nouveau, on retrouve notre force quand même européenne d'avoir cette idée de culture. On respecte les cultures du monde, là où les Américains sont plutôt à vouloir imposer la leur. Donc là-dessus, on a une vraie opportunité. Et d'un point de vue technologique, ce qu'on voit, et nous, on le vit avec GenSpot, c'est qu'aujourd'hui, on a effectivement des contacts de plus en plus dans le monde entier, de gens qui veulent co-construire, pour aller dans le sens de ce qui a été dit, une solution à leur image, parce que justement, ils veulent l'adapter. Et que ça, c'est ce qui permet également, par contre, aujourd'hui, la technologie du cloud mondialisé, de l'open source et finalement des déploiements des solutions, de penser autre chose qu'un monolithe au niveau mondial. Et que ça, c'est effectivement ce que nous, on voit vraiment arriver. Alors, ce qu'on appelle le sud global. Et plus moi, je le vois presque comme une inversion de ceux qui ne veulent pas être en domination américaine ou chinoise. Quelque part, c'est par le combat dont on a parlé qui est plutôt ce qui définit aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qui fait commun entre tous ces pays-là ? C'est juste qu'ils n'ont pas envie d'être dépendants. Ils ne veulent plus payer aussi leur éco. Hein, les 292 milliards dont tu parles, moi, je le vois comme une dîme qu'on paye aujourd'hui aux Américains. Donc, en fait, une espèce d'impôt indirect. Donc, c'est une espèce de petite révolution, mais qui n'est pas une révolution par les armes contre un ennemi comme ça direct, mais plutôt de vouloir reprendre en main son destin. Et moi, je trouve ça plutôt très réjouissant au niveau mondial.
Mon mot de la fin serait qu'on rentre dans une période politique chargée avec les présidentielles qui arrivent. En 2017, j'avais coécrit avec beaucoup d'acteurs du numérique français un bouquin qui s'appelait 2017, une centaine d'idées pour faire une France numérique. J'avoue que notre succès avait été modéré, mais peut-être que les prises de conscience permettraient de réactiver ça. En tout cas, il faut être très attentif aux propositions des candidats en la matière, remettre la commande publique dans le bon ordre, l'orienter, lever un fonds souverain pour booster les financements au-delà de 100 millions, comme on l'a dit, et puis remettre le numérique au cœur des rôles modèles de la société. Non seulement pour les femmes qui sont très absentes du numérique, trop absentes du numérique, c'est anormal. C'est pas le cas en Chine, c'est pas le cas dans plein de pays, mais c'est le cas en France et en Europe. C'est très dommage. Et les entrepreneurs, hein, qui sont plutôt aujourd'hui tantôt vus comme des ennemis ou des profiteurs, plutôt que comme des héros de la société. C'est quand même eux qui créent la valeur. Donc ces rôles modèles sont importants à promouvoir dans cette période politique. Et Geneviève est de nouveau mute, malheureusement.
On a été attaqué par des cyberattaqueurs. Non pas.
Toujours pas.
Ben Woman, je fais la conclusion du coup en attendant Geneviève du coup.
Ben, je ne sais pas si on va conclure le temps que j'avais arrive. Moi, avec tout ce que j'ai entendu, j'ai pensé à une phrase qu'avait prononcé Bismarck. Vous vous rappelez, la diplomatie sans les armes, c'est comme la musique sans les instruments. Et moi, je dirais que la souveraineté sans les financements, c'est pareil, c'est comme la musique sans instrument. Ça permettrait de conclure en beauté ce beau webinaire. À vous.
Bah, tu vois, sans les instruments, effectivement, Geneviève n'a plus son instrument pour pouvoir parler. Là, tu vois, on a perdu la voix. Même si on essaie de lire sur ses lèvres, c'est plus difficile. Est-ce que du coup, David est là pour. Je crois que David était parti également. Voilà, pour une conclusion. Et peut-être pour annoncer le prochain, s'il y a un prochain. Voilà, Frédéric, qui était en backstage, qu'on remercie d'ailleurs. Et c'est quand même lui qui a.
Voilà, Frédéric. On ne t'entend pas non plus, Frédéric.
Ah, c'est une malédiction.
Non, c'est parce que je n'ai pas mis mon micro. Donc, merci voilà. À tous les trois pour cette belle intervention. Merci à Geneviève pour l'animation malgré les problèmes techniques. Donc oui, on a eu un très bel éclairage de votre part sur justement ces enjeux sur la souveraineté. Il y a eu plein de questions qui ont été posées dans les commentaires. Je sais que vous avez répondu à pas mal de ces questions durant la présentation. Néanmoins, n'hésitez pas à les vérifier dans les commentaires et répondre directement aux personnes. Je suis sûr que ça leur fera plaisir d'avoir une réponse de votre part. Donc, bien entendu, on se retrouve pour des prochains événements organisés par Numericissimo. Donc, on se retrouvera en fin mai avec un webinaire sur l'IA et les réseaux sociaux en 2026 qui sera animé par Émilie Marquois. Ensuite, le 10 juin, j'aurai le plaisir d'animer un webinaire sur l'IA et le marketing avec les stratégies pour ne pas devenir ubérisé. Et en fait, il y aura un autre webinaire sur le droit numérique, là ensuite à la rentrée sur la cybersécurité. Je pense que c'est des sujets qui vous parlent beaucoup. Et en fin d'année, l'IA agentique. Donc en tout cas, merci à tous. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Donc merci Geneviève pour l'animation. Désolé pour ces petits problèmes de micro. Et j'espère que ça vous aura intéressé. Et donc n'hésitez pas à contacter nos intervenants si vous le souhaitez. Ils vont pouvoir échanger après, je pense, sur ces sujets qui nous passionnent tous. Merci à tous et à très bientôt.
Merci, à bientôt. Allez, à plus tout le monde.
Au revoir. Merci, au revoir.